Europe 1.
Rendez-vous à l'hôtel.
Wendy Bouchard.
Coste, vous y retrouverez Michel Field demain. C'est un plaisir en tout cas que de dresser avec vous la table et d'y accueillir quelques personnalités de l'art, du spectacle, de la création française. Je vous en parlais dans un instant, qui témoigne chaque jour de sa vitalité. Il a la voix qui porte. Il a l'audace de la mise en scène qui métamorphose parfois la vision que l'on se fait d'un texte. En tout cas, il lui redonne à chaque fois un coup de fouet avec sa fantaisie et son goût des mots. Nicolas Briançon est avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Acteur, metteur en scène, quel dommage que la cérémonie des Molières n'ait pas lieu maintenant tout de suite, parce qu'avec Le Songe d'une nuit d'été, vous étiez sûr, à mon avis, de rafler beaucoup de statuettes. Ça vous chagrine tout ça?
D'abord, il y avait une tradition des Molières, c'est-à-dire que généralement les pièces les mieux placées étaient rarement celles qui étaient à l'arrivée, donc je pense que j'aurais certainement pas dérogé à la règle. Ensuite, oui, les Molières n'auront pas lieu cette année. Ben, on verra ce qui se passe. Ça sera sans doute pour reconstruire quelque chose et quelque chose de mieux.
Dont acte. En tout cas, en ce moment, vous êtes à la Pépinière Opéra à Paris car vous avez enchaîné deux pièces. 60 représentations exceptionnelles jusqu'à la fin du mois de mars pour Jacques et son maître. Alors, ce n'est pas directement la version de Diderot, mais c'est la vision qu'en a eue et l'adaptation qu'en a faite Milan Kundera. Et c'est de toute beauté. C'est ça que vous avez exploité.
Oui, c'est pas. On n'est pas d'ailleurs, mais Milan le précise toujours, on n'est pas dans une adaptation, mais on est dans ce qu'il a appelé lui une variation. C'est un peu comme certains musiciens classiques comme Beethoven ont fait des variations sur des thèmes de Mozart. Voilà. Kundera s'est amusé avec le thème de Jacques le Fataliste, qui est certainement le plus grand roman philosophique du XVIIIe siècle. S'est amusé à écrire une pièce qui essaye de rendre hommage à l'esprit des Lumières, à la pièce au texte de Diderot, au roman de Diderot, qui est en même temps un hommage au théâtre.
Merci beaucoup, on en parlera longuement. Allez, musique. Connaissez ce timbre, elle a les yeux qui pétillent, Hélène Ségara, de parcourir la France pour sa tournée et de s'arrêter les 16, 17 et 18 mars à l'Alhambra à Paris. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Première fois que vous foulez les planches de cette belle scène de concert, l'Alhambra.
Oui, où beaucoup d'artistes, de plus en plus d'artistes passent. C'est une salle qui a une vraie âme et aussi un très bon son, ce qui est important pour nous. Et elle permet de rencontrer son public de manière intime.
Et vous y présenterez intimement votre dernier album, entre autres, parmi la foule, avec ce duo qui vous émeut particulièrement, celui avec votre fils.
Complètement, oui, qui sera sur scène avec moi à l'Alhambra.
Passage de flambeau, peut-être ? Au moins pour la circonstance.
En tout cas, partage. Oui. Partage affectif très important, très intense. J'ai fait ma première télé avec lui il y a quelques jours. Un de nos invités était là et tout le monde pleurait. C'était très émouvant.
Et vous, la première ?
Oui, parce que je suis quand même chialeuse de service en dehors de chanter, quand même, on le sait.
En tout cas, on connaît vos racines méditerranéennes, Hélène, varoise. Une région qu'affectionne particulièrement, en tout cas le bassin méditerranéen. Notre invité ce soir, qui est un homme du Sud, médecin de formation à Marseille, député UMP des Bouches-du-Rhône, Renaud Muselier. Bonsoir Renaud.
Bonsoir.
Mais si vous êtes là ce soir, ce qui nous intéresse surtout ce soir dans cette émission culturelle, c'est que vous êtes président de l'Institut du Monde Arabe et qu'aujourd'hui a été un grand jour. Ce lundi vous a permis de réveiller, comme vous le dites joliment, une belle endormie.
Et oui, c'est sûr que l'Institut du Monde Arabe est un outil particulièrement prestigieux. C'est un institut qui est assez unique d'ailleurs, puisque c'est le seul qui permet de s'exprimer avec les 22 pays du monde arabe, la Ligue arabe, et c'est un lieu de culture qui est absolument remarquable. Et là, ce soir, depuis 3 ans, le musée, avec son exposition permanente, était fermé. Il a été refait dans sa totalité, et je crois que c'est un grand moment. Et donc, je viens à l'instant, finalement, de l'inaugurer. Il y a eu beaucoup de monde, et je crois que c'est une exposition superbe. Je vous invite tous à venir le regarder.
Pierre de Villeneuve, qui est au bout de cette table, a eu la primeur de le visiter aujourd'hui. Ce sera ouvert au public dès demain, on en parlera évidemment. Encore autour de cette table, Jacques Spécis avec ceci.
Notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Oui, le parti de rire, Francis Blanche et surtout Pierre Dac, Jacques Pessis, bonsoir Jacques.
Bonsoir Wendy.
Pierre Dac, à qui vous consacrez un spectacle loufoque et génial, vous qui avez une relation particulière avec ce que vous appelez ce maître et dont vous êtes le légataire universel.
Oui, j'ai été son secrétaire général particulier, son neveu adoptif, donc je suis devenu son légataire universel.
universel et j'ai pu montrer que, contrairement à ce qu'il pensait, il vaut mieux passer à la postérité que passer héritière à la poste.
Alors, c'est un spectacle que vous lui consacrez. On parlera de ceux qui vous entourent au Théâtre des Deux Ânes, lieu, s'il en est, des chansonniers. Il en était un des premiers.
Le Théâtre des Deux Ânes a ouvert il y a 90 ans. Il a été le premier chansonnier des Deux Ânes. Et donc, on lui consacre une biographie loufoque et musicale pour évoquer son parcours loufoque, mais aussi son parcours à Londres, car il a été, pendant la guerre, l'un des Français qui parlait aux Français.
Très bien. Nous parlerons aussi ce soir de l'art contemporain, de la manière de se l'approprier. Plus besoin d'être multimillionnaire ou d'être un grand, grand mécène. Ton David Bastock va nous présenter un site internet qui permet, au fond, d'acquérir à faible coût des œuvres cotées, en investissant en ligne, en achetant, en faisant des plus-values. Bonsoir, Tom David.
Bonsoir. Donc, le principe, en fait, est très simple. On a créé ce site internet, myartinvest.com, pour pouvoir démocratiser le monde de l'art contemporain en permettant d'acheter finalement des actions ou des parts d'œuvres d'art.
Ça, c'est le néophyte ou c'est le féru d'art contemporain qui parle ce soir?
C'est les deux.
Les deux. Et en tout cas, vous avez démocratisé un art qui paraît un peu inaccessible, mais qui fait les beaux jours des grandes foires, des grandes expositions. Et donc, ça fonctionne, l'art contemporain dans le public.
Exactement. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien puisqu'on a réussi à toucher un public de connaisseurs, d'amateurs, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Donc grâce à ce site internet-là, finalement, on ouvre le monde de l'investissement dans l'art à tous.
My Art Invest, on va revenir longuement. Tous les soirs dans Rendez-vous à l'hôtel, on met en lumière deux révélations. Ce soir, talent musical, écoutez. Je dis talent musical, ils sont plusieurs derrière. Vous avez reconnu Clopin, Duke Ellington n'est pas très très loin et pour cause, c'est un hommage que lui rend Laurent Mignard et ses musiciens. Laurent, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous êtes le grand Manitou, le grand chef d'orchestre de ce Duke Orchestra qui rend hommage à l'un des plus grands jazzman. Et cette fois-ci, vous mettez l'accent sur ses affinités françaises.
Oui, depuis 8 ans, j'ai le privilège et la responsabilité de conduire un ensemble qui s'appelle le Duke Orchestra, qui est dédié à l'œuvre d'Ellington, qui a travaillé sur à peu près tous les sujets. Ça va de Shakespeare aux femmes, en passant par les peuples du monde, en passant par, bien sûr, les musiques noires, les grandes fresques. Enfin, c'est un héritage incroyable. Et on a eu envie de faire un focus sur les relations entre Ellington et la France dans ce nouvel album.
Merci beaucoup Laurent. Et puis c'est Histoire qui garde la tête froide, je dis révélation, mais vous le connaissez déjà très très bien, en particulier les auditeurs d'Europe 1. Walter est avec nous ce soir, humoriste belge, on vous catégorise ainsi, mais vous en jouez beaucoup.
Écoutez, j'en profite, hein. Vous savez, on a entendu beaucoup pendant des années, à l'époque de Coluche, des blagues sur les Belges. J'avais envie de montrer une image un petit peu différente peut-être.
Alors pour ceux qui n'entendent pas, n'écoutent pas assez l'émission de Michel Drucker, dans laquelle on vous retrouve quasiment tous les matins, 10h30, midi, si on doit vous décrire, vous avez un petit côté comme ça, Tintin, avec une petite houppette sur le côté, mais vous êtes beaucoup plus vachard que lui, non?
Oui, Tintin qui aurait mangé le professeur Choron, vous voyez, un petit peu plus dans cet esprit-là.
C'est ça. Merci beaucoup Walter, vous êtes au point et puis on entendra un petit peu votre univers. De toute façon, chacun participe autour de cette table. L'idée, c'est un dîner que l'on vous offre alors que vous dressez la table ou que vous êtes vous-même à la maison pour partager ce bon moment. Jusqu'à 22h30 avec nous en direct de l'Hôtel Coste avec tous nos invités. On va commencer en musique avec Hélène Segarra.
Rendez-vous à l'hôtel.
Wendy Bouchard.
C'était Le Monde à l'envers, Hélène Segarra, nouveau single de ce dernier album Parmi la foule, une chanson que vous avez écrite avec votre compagnon Emmanuel Da Silva, ce duo avec...
Emmanuel Da Silva n'est pas mon compagnon, c'est mon époux Mathieu Leca qui a composé la chanson. Emmanuel Da Silva, qui est un ami.
Vous auriez aimé qu'il soit votre
Ben non, je préfère mon mari.
Oh, je suis désolée, pardon. Bah oui, j'ai confondu. En tout cas, Raphaël est bien votre fils, certifiez-le ce soir.
Oui.
Le compagnon de la chanson uniquement.
Voilà.
Et Jacques est son mec aussi, comme
c'est un saint, Raphaël.
Et Orlando est mon amant, donc mon producteur. Et
voilà, on l'embrasse très fort, Orlando. Alors, chacun autour de cette table s'interrogeait, faisait les grands yeux lorsque vous disiez Raphaël a déjà 22 ans, mais vous l'avez eu très jeune.
À 12 ans et demi, non, je présente.
À 18 ans. Il a été donc en âge de comprendre très tôt toutes les séquences de votre vie professionnelle. Il a vraiment vécu beaucoup de choses avec vous.
Oui, mais je l'ai beaucoup protégé, je l'ai tenu énormément à l'écart. Et là, à 22 ans, faire le choix d'assumer ce duo, c'est son choix à lui. C'est-à-dire qu'au départ, ça lui faisait un peu peur. On a fait ce duo pour se faire plaisir, mais lui, il a un groupe de rock. Et il s'est dit, ça va être difficile pour moi de percer dans le rock si jamais j'ai une étiquette qui dit « j'ai fait un duo avec ma maman ». Mais en fait, là, il est prêt parce qu'il se dit bon, on va le faire pour nous, pour se faire plaisir. Et puis, je crois que secrètement, la grande base fan entre guillemets attend espérer qu'il monte sur scène avec moi.
C'est ça, et notamment à l'Alhambra.
Et oui, tout à fait.
Voilà, donc il n'en fera pas mystère, il sera probablement pas très très loin de vous.
Il sera à l'Alhambra, mais pas sur toutes les dates, parce que je veux qu'il finisse ses études, c'est tout.
Ah oui.
Oui.
Rocker, mais étudiant.
Rocker qui étudie.
Avec une maman visiblement exigeante.
Ah oui, très, très.
Mais ça vous fait du bien qu'il soit là, qu'il arrive dans votre univers musical.
Oui, ben oui, on a fait une première télé, ce que je disais, avec Jacques Pessy qui était là. Et c'était très émouvant. Ça fait bizarre de chanter tout à coup à la télé avec son fiston qu'on a caché pendant toutes ces années.
Il faut dire qu'avec Jacques Pessis, vous partagez notamment cette émission musicale France 3 qui s'appelle Shabada. Jacques, vous êtes le conteur, vous êtes la chroniqueur musicale pour exprimer tout ce qui se passe sur le plateau, car c'est à chaque fois un univers musical que les invités réinterprètent.
Oui, je raconte des anecdotes sur la chanson française parce qu'il y a un patrimoine fabuleux, Hélène le connaît bien, et qui mérite d'être raconté pour les anciens et pour les jeunes générations.
Jacques nous apprend beaucoup, c'est vraiment un puits de culture sur la musique, il est incollable.
Vous qui êtes un petit peu citoyenne du monde, c'est toujours un peu cliché, vous avez un papa italien, vous avez une maman arménienne, vous vous baladez souvent dans le monde francophone aussi pour vos tournées.
Je chante dans beaucoup de pays parce que je chante en 10 langues, donc je suis dans les pays de l'Orient, je chante en hébreu, je chante en arabe, je chante en russe, en arménien, et c'est vrai que ça me permet de faire des tournées hyper fabuleuses.
Incroyable. Donc là vous avez un tour de chant en Russie entièrement russe par exemple ?
Non, j'ai pas un tour de chant, ils sont très francophiles, ils adorent la chanson française, mais j'ai une chanson, j'ai repris une chanson russe qui fait partie du patrimoine qui s'appelle Padmaskovnie Vichera et je l'avais reprise pour leur faire plaisir lors de mon premier voyage en Russie. Je me suis dit comment je peux les remercier de l'accueil qu'ils me font, et j'ai appris cette chanson et ensuite j'y suis retournée, et c'est vrai que c'est un public qui est très très calme au départ et puis très révélateur au fil de l'avancée du spectacle. Il se révèle de plus en plus chaleureux.
Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, vous chantez en arabe ?
Ah oui, beaucoup. Là, j'arrive du Liban.
Oui.
Et j'étais au Liban il y a quelques jours et à Dubaï, je chante en français et en arabe, et je chante même dans d'autres langues parce que ce sont des pays cosmopolites, vous savez. Quand vous allez dans des pays comme le Liban, vous voyez des gens de toutes origines qui sont là-bas.
Donc vous avez un prompteur et vous chantez en phonétique ?
Non, j'ai pas de prompteur.
Vous le par cœur.
J'ai un prompteur si j'improvise quelque chose, mais sinon je connais.
Comprenez.
Oui, heureusement.
Contrairement à beaucoup de chanteurs qui chantent effectivement, comme l'a dit Wendy, en phonétique. Je ne vais pas citer Mireille Mathieu ou Claude François qui chantaient en japonais. On ne comprend absolument pas ce qu'ils disaient.
À sa décharge, je pense qu'elle en chante beaucoup plus que moi. Donc peut-être qu'elle n'a pas le temps de... Moi, quand j'avais fait un album qui s'appelait Un tour de la Terre, et la tournée s'appelle... Une chanson qui s'appelait Mon pays, c'est la Terre. Et c'était une tournée construite sur un message de paix. Et c'est vrai que, comme je voulais faire chaque pays, je cherchais un morceau connu dans chaque pays. Et j'avais eu le temps d'adapter une partie du texte en français pour quand j'étais en France et faire connaître le morceau en France. Et je m'intéressais au texte original pour savoir de quoi il parlait.
Eh bien, Hélène Segarra, voici un extrait de Mon pays, c'est la terre. Danse à nouveau et vous nous direz quelques évocations autour de ce titre-là.
Thank you.
Segarra, Laurent Mignard, vous qui êtes un des musiciens de, ce, de cette bande, belle interprétation.
Moi, je suis impressionné parce que j'ai l'impression qu'Hélène, c'est le couteau suisse de la chanson. Mais
ah, c'est magnifique,
plutôt le couteau
ça.
Oriental de la, de la chanson.
Ah, je vais, j'adore, je vais retenir. Voilà. Ah, oui.
Alors, cette chanson, Hélène, par exemple.
Cette chanson, justement, ça, c'était une, quelque chose que j'avais envie de faire à force d'aller en Orient, d'en chanter dans tous les pays. Mon plus beau souvenir de scène, ça s'est passé dans les arènes de Carthage il y a quelques années. Et je chantais un Ave Maria païen de, du spectacle Notre-Dame de Paris. Et quelques secondes avant que je monte sur scène, mon régisseur me dit « Ne chante pas d'Ave Maria dans un pays musulman ». J'ai dit « Mais enfin, c'est ridicule de dire ça. Il y a une autre ouverture que ce que tu crois. » Et donc, j'ai préparé mon morceau. J'ai dit aux gens « Peu importe le nom que vous voulez donner à cette femme, que vous l'appeliez Myriam, Fatima ou Marie, c'est la même dans toutes les... » Et j'ai chanté mon Ave Maria à genoux. Et il y a 15 000 petites lumières de toutes les couleurs qui se sont allumées dans les arènes. Et pour moi, il était important après de chanter en arabe pour remercier de cet accueil-là.
Petite passerelle vers Renaud Muselier, cette musique orientale, cette musique du, qui aussi arrive jusqu'au bassin méditerranéen, elle pourra à un moment donné toquer à la porte de l'Institut du monde arabe. Il y a une scène, il y a de quoi aussi interpréter et faire vivre ces esprits, ces chansons-là.
Mais l'Institut du monde arabe dispose d'une salle de 400 places, avec une scène superbe, qui a la capacité de présenter des spectacles ou d'avoir des concerts. Et il est clair que dans l'activité à développer à l'Institut, cette culture arabe, qui est et ce qu'on présente dans le musée, en fait, hein, c'est quelque chose qui est multimillénaire, quoi. Et à partir de ce moment-là, on se rend bien compte qu'au fur et à mesure, les civilisations, les races, les religions se sont croisées au fur et à mesure. On le voit bien dans le musée aujourd'hui, où il y a, je crois que c'est un des seuls musées au monde, là, où vous avez les évangiles, la Torah et le Coran.
C'est merveilleux.
Et donc, l'art contemporain, dont on parlait tout à l'heure, comme aujourd'hui la musique, fait partie de ce patrimoine culturel
qui se métisse.
Et si on connaît notre histoire, qu'on connaît notre culture, qu'on a cette vision sur le passé, on a une meilleure compréhension des autres. Sortir de l'extrémisme religieux, qui est parfois réfractaire, et rentrer dans la culture pour arriver à faire en sorte que par la musique, par l'art, on puisse mieux se parler, mieux se connaître, mieux se reconnaître. Pour cette espèce de reconnaissance, fait en sorte que c'est un message de paix, de dialogue. Puis la musique, alors là, c'est universel. On danse partout dans le monde entier, quel que soit le rythme. Et si on peut le faire dans notre pays, sur le bassin méditerranéen, cette Mare Nostrum, et dans le monde arabe, qui est très collé à notre civilisation, eh bien, je crois qu'on aura gagné beaucoup en compréhension et en paix. Donc, bienvenue à l'Institut.
Avec plaisir. La musique, c'est un passeport universel. Il n'y a pas de frontières, c'est vrai.
Sur l'influence musicale, justement, Laurent Mignard, vous, le jazzman, vous ne pouvez pas dire le contraire, pour le coup.
Mais je peux non seulement moins le dire, mais en plus, il y a une exemplarité absolument incroyable qui est celle de Duke Ellington, que je représente aujourd'hui. Il se trouve que Duke, en 1963, a fait une tournée pour le département d'État. C'était l'administration Kennedy qui l'avait envoyé. Et il a fait la plus incroyable tournée au Proche et au Moyen-Orient qui ait été faite. Il est allé à... Alors, imaginez aujourd'hui la tournée que ça fait. C'est Beyrouth, Damas, Jérusalem. Bref, pratiquement toutes les villes ont été faites, mais vraiment toutes.
En 63, c'est ça ?
Oui, et il est allé en Iran, il est allé en Irak, il est allé en... Évidemment... Dans tous ces pays qui aujourd'hui sont des problématiques géopolitiques. Et la tournée s'est arrêtée à la mort de Kennedy. Et Ellington est revenu avec des impressions de voyage. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que, à mon avis, il y a deux façons d'aller aborder l'autre dans sa musique. Soit on va le pasticher. Et là, de mon point de vue artistiquement, non seulement c'est pas très intéressant, et puis c'est pas lui faire honneur.
Oui.
Par contre, et c'est ce que faisait Ellington, il revient avec des impressions de voyage, il écrit une suite qui s'appelle la Faris Suite, qui sort en 66, et qui sont justement la façon dont lui a intégré l'idiome de l'autre dans sa musique. Et ça donne des musiques absolument prodigieuses, et surtout un regard sur l'autre qui est teinté de beaucoup de respect. Et voilà, ça c'est l'un des exemples d'Ellington, citoyen du monde. Oui.
Voilà pour la musique. Walter, comment on se métisse, vous, le Belge, quand vous arrivez en France et qui jouait de ce côté belge et méchant, justement, pour jouer le racisme anti-belge, etc. Comment on arrive à un moment donné aussi à récupérer les codes à la française ?
Vous savez, moi je viens d'une ville, à la base je viens de Charleroi, mais j'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles, qui est une ville déjà flamande à la base, mais à 80% francophone. Donc déjà, on a l'habitude, beaucoup de Marocains qui habitent à Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, il y a la communauté européenne, on a l'habitude de prendre les codes des autres. C'est quelque chose de presque inné. Donc de toute façon, la Belgique étant de toute façon, et le peuple belge étant un peuple supérieur, nous arrivons sans difficulté particulière. Nous prenons les codes et voilà.
Bruxelles, ça fait tilt, hein, Jacques Pessis. Vous y jouez beaucoup de vos spectacles, vous y allez souvent.
Oui, j'ai un bureau là-bas aux éditions du Lombard, c'est dans un genre différent. Et en plus, j'adore la Belgique et le chocolat, donc je ne peux aimer que. Et les frites, et Walter à la frite.
C'est pas cliché.
Je me demandais combien de temps. Écoutez, on a fait 25 minutes avant de parler de frites, c'est parfait.
Nicolas va le relever le niveau.
Mais Walter, comme tous les Belges qui vivent en France depuis longtemps, il sera français dans très peu de temps quand les Français vont décider que de toute façon on va l'annexer.
Voilà.
Comme la Wallonie très prochainement. Et donc, comme Johnny Hallyday et comme les autres, il sera considéré maintenant comme.
Moi, j'annexe vos meilleurs produits. Donc, je lève un verre de bruit à la santé de repas.
François Mitterrand a naturalisé Milan Kundera. Nicolas Briançon naturalisera français Walter.
Sur ce qui s'est dit là tout à l'heure sur les échanges, le mélange de musique et sur ce que Duke Ellington a fait quand il a ramené cette musique de ses voyages. Finalement, c'est exactement la genèse de la pièce de Jacques et son maître. Kundera est en 69 en Tchécoslovaquie. Il est un tailleur char russe, rentre dans Prague. Tous ses livres sont interdits. Il peut plus publier et on lui offre la possibilité, des amis lui offrent la possibilité d'écrire une pièce sous un pseudonyme. Et il pense à ce qu'il a envie de faire et il se tourne vers le siècle des Lumières français, dans le siècle des Lumières vers Diderot et dans Diderot vers Jacques le fataliste, qui est pour lui l'expression absolue de la liberté et de la liberté du roman et de la liberté tout court. Et à partir de là, il recrée, parce qu'il a lu ce roman il y a un moment, une pièce avec des personnages qui ont peuplé son adolescence d'étudiant
et son dépucelage.
Oui, son dépucelage, en tout cas c'est ce qu'elle raconte. Et cette pièce qui est vraiment un hommage absolu à la littérature française, et peut-être un des plus bels hommages qui a jamais été écrit sur la littérature française. Elle nous vient d'une Tchécoslovaquie envahie, enfermée. Et cette pièce est revenue après en France. Et Milan dit toujours, quel paradoxe. Diderot traduit en français. Voilà.
Pardon, mais c'est vrai. Vous êtes seul sur scène?
Non, on est 10.
Ah bon, d'accord.
10. Non, c'est une grande
pièce. Yves Pignot forme le tandem épatant.
Nathalie Roussel, François Siennet,
Et un accordéoniste, un petit lien avec Jacques Pessis, on en parlera juste après une très très petite pause dans ce rendez-vous à l'Auten avec Hélène Ségara, avec Renaud Muselier, Nicolas Briançon, Jacques Pessis, et puis beaucoup d'invités. Je n'ai même pas le temps de les énumérer car on se retrouve dans 10 secondes, vous allez voir.
Tous les jours sur Europe 1, 21h, 22h30.
Rendez-vous à l'hôtel.
Wendy Bouchard.
Avec entre autres autour de la table ce soir Jacques Pessis, qui a une mémoire encyclopédique en ce qui concerne le music hall, les légendes, les étoiles du music hall. Et je sais que vous en ferez état dans cette émission, Jacques. Mais hommage particulier ce soir à celui qui fut votre maître. Alors il n'aimait pas qu'on l'appelle son maître. Il disait appelez-moi plutôt maître 63.
Oui, étant donné ma taille, je suis votre maître 63 à tous. Pierre Dac, c'était son esprit.
On l'appelait Pierre Dac, c'était en réalité André Isaac.
André Isaac, il était d'origine juive, mais c'était pas un nom de scène, et quand il a débuté en 1922, il a choisi Dac parce que d'actualité comme un chansonnier, et Pierre parce que c'est le premier prénom qui lui est venu à l'esprit.
Comment vous avez eu l'idée de concevoir ce spectacle? Vous êtes dit, cet humour loufoque, un peu foutraque, plein d'aphorismes, plein de saillies, il fallait le mettre en scène mais de manière aussi un peu musicale?
D'abord, Pierre Dac a écrit beaucoup de chansons, il a vécu 82 ans et beaucoup de choses, et ensuite je me suis aperçu que les anciens connaissaient mais que les jeunes le découvraient. Il ne se passe pas deux mois sans qu'une école me demande le texte du Schmilblick, car le Schmilblick c'est de Pierre Dac, on l'a oublié, sans qu'on me demande un texte de Radio Londres. Et donc le but c'est de faire découvrir à travers une pièce de théâtre son œuvre, ses chansons et son parcours.
Il a inventé les premières.
Tout inventé.
Oui, c'est vrai.
Il a tout inventé. Aujourd'hui, sans Pierre Dac, Pierre Desproges, Coluche, le Guignol de l'info n'aurait pas existé. Et ils le reconnaissent eux-mêmes, d'ailleurs, les auteurs des Guignols.
L'humour chansonnier n'aurait pas existé. Vous le disiez, il a été l'un des premiers à fouler les planches de ce théâtre des Deux-Ânes qu'il a quasiment inauguré.
Oui, mais à le moderniser, car à l'époque, le chansonnier arrivait avec sa petite feuille, le texte écrit l'après-midi, lu le soir et oublié le lendemain. Lui, il est arrivé avec des formules modernes. C'est-à-dire quand en 1926, il dit quand on dit fermer la porte, il fait froid dehors. Il fait toujours aussi froid dehors quand la porte est fermée. À l'époque, c'est moderne. Et aujourd'hui encore, je le constate tous les soirs aux Deux-Ânes, ça fait sourire.
Et vous avez choisi justement d'exhumer un peu toutes ces réflexions, tous ces sketchs, il y en a eu beaucoup.
Il y a eu beaucoup, beaucoup de sketchs.
Pour les réinterpréter ou à peine ?
Non, c'est une pièce de théâtre. Nous sommes dans une gare, on prend nous sommes Célestine Trouscott, moi je suis Gédéon Burnemouth, le personnage de Pierre Dac, et il y a un certain GKW Vanden Paraboom, le chef de gare, qui se prénomme GKW.
C'est Walter, ça.
Voilà, qui se prénomme GKW en souvenir de sa tante Irma, ce qui est logique.
Ouais.
Et donc, on attend le train qui part pour autre lieu du côté d'ailleurs, et nous allons raconter et chanter Pierre Dac dans cette gare, alors qu'on nous donne des nouvelles de la pharmacie Lopez, qui est de garde tous les dimanches à Santiago du Chili. Et c'est un mélange de textes, de chansons et d'évocations assez, parfois assez dures, notamment sur la période de Radio Londres.
On va l'écouter justement, une de ces voix de la BBC qui a été celle de Pierre Dac. Mais si je fais un petit sondage autour de cette table, Pierre Dac évoque quoi pour vous, Nicolas?
Moi, c'est mon enfance, parce que je me rappelle qu'on écoutait
Nicolas
ça à la maison.
Il y avait
des feuilletons qui passaient à la radio.
Mmh. 1034 épisodes de Signifurax.
J'avais des parents qui étaient très fans, donc je me rappelle de ce petit moment le soir vers 19h, je crois, où on écoutait le
gruyère
autour
qui tue,
de la radio,
voilà.
Et on écoutait ça.
Renaud?
Beaucoup d'humour fin, raffiné, avec quelque part une finesse d'analyse sur la vie politique, sur la vie sociétale qui est caustique. Et c'est avant-coureur, mais c'est drôle. Il disait, beaucoup d'humour.
Il disait
grande classe.
Homme politique, si votre vue baisse, baissez-vous avec elle.
Loufoque, mais aussi patriote, écoutez-le dans cette chanson sur le fils de Pétain.
Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Faucheton, la brochette de Sacré Cochon, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnand, d'Oriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain : Y a-t-il des salauds parmi nous ? Tous, prenne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain.
C'est incroyable.
Un beau document, ça.
Est-ce que Mitterrand a fait interdire la chanson?
Non, même pas. Non, mais il n'aurait pas osé le dire, moi. Il a été pendant 9 mois à l'un des Français qui parlait aux Français. Il s'est exprimé tous les soirs sur Radio Londres avec des chansons et des sketchs. Et il a aidé les Alliés à accoucher de la victoire. Et pour arriver à Londres, il a fait pratiquement un an et demi de prison entre l'Espagne et le Portugal, avec beaucoup de courage.
Lorsque vous êtes arrivé, Jacques Pessis, au Théâtre des Deux Ernes avec ce projet, Jacques Maillot, Jean Roucas ont sauté sur l'occasion, se sont lissés pour nous.
Tout de suite, on dit c'est maintenant. En plus, c'est le Théâtre des Deux Ânes, ce sont les 90 ans. Et c'est vrai qu'on se sent en famille avec le père ou le grand-père des chansonniers.
Avec des dialogues loufoques. Hein. Vous avez un chien? Oui, j'ai un chien, un Saint-Bernard.
Oui, un Saint-Bernard. Bah oui, en réalité, c'est un ancien basset, mais il est devenu Saint-Bernard à force de travail, de courage, d'ambition et de volonté.
Vous voyez, tout
il y a des petites annonces. On demande deux hommes de paille, un grand, un petit, pour tirage au sort. Auteur dramatique échangerait pièces en quatre actes contre trois pièces et une cuisine. Ou alors quelque chose d'assez banal, c'est échangerait femme de 50 ans contre deux de 25.
Ah oui,
ça c'est vu. Hein.
Il a beaucoup inspiré, vous le disiez, des proches, Coluche, De Vos, on peut aller jusque-là aussi.
Raymond De Vos m'a toujours dit que son livre de chevet était Les pensées de Pierre Dac. Alors, le seul livre qu'il lisait.
Une petite pensée pour lui. Raymond De Vos, oui dire.
Ça fait partie de ces phrases toutes faites. J'ai oui dire. J'ai voulu dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Écoutez, franchement, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins en sortir. Il y a encore en littérature, vous voyez ça évidemment, dans Rabelais. Nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses.
Avec ce principe des spectacles et des biographies de légendes comme ça, Jacques Pessis, vous pouvez aller très très loin. Il y a eu Piaf, il y a eu Brel, maintenant Pierre Dac dans un autre registre, mais bon voilà, vous n'allez jamais vous ennuyer.
Il y a tellement de choses à raconter, de gens fabuleux qui ont vécu des choses exceptionnelles, qu'il me paraît important de les raconter pour les plus anciens mais aussi pour les plus jeunes. C'est comme les fondations d'une maison. C'est important, les fondations. Si on veut aller plus loin, il faut connaître le passé. Si on construit une maison, il faut des fondations.
Vous savez, Renaud Muselier, qu'en 1965, il annonce sa candidature à l'Élysée, Pierre Dac. Ouais.
Il se présente contre le général de Gaulle à la tête d'un parti qui s'appelle le mouvement ondulatoire unifié, dont la devise est « Les temps sont durs, vive le mou ».
Ah, ça c'est le contraire de la France forte. Hein.
Et, allez,
oui, mais enfin, il y a un autre candidat à qui on pourrait donner un peu ce label.
J'espère que Pierre Dac voterait François Hollande. Oh.
Et finalement, l'Élysée n'a pas apprécié la plaisanterie à l'époque, mais 15 ans avant Coluche, Pierre Dac a été candidat au présidentiel.
Mmh. Walter, vous vouliez...
Oui, moi j'ai des souvenirs d'enfance où il y avait les rétrospectives d'humoristes, etc. Et c'est vrai que en voyant des humoristes de 20, 30 ans d'avant l'époque où je le regardais, il y avait un océan de ringardise, et puis tout d'un coup je vois Francis Blanche et Pierre Dac faire le Sar Rabindranath Duval, et c'était le truc le plus moderne qu'on puisse imaginer. Donc c'est vrai que ça avait 10 longueurs d'avance sur toutes les autres.
C'est vrai la légende qu'ils étaient bourrés quand ils ont
totalement
fait ce...
c'est-à-dire qu'en réalité ils avaient déjeuné dans un bouchon lyonnais à midi en goûtant toute la cave. Ils sont arrivés sur scène complètement bourrés, alors il y avait une base, mais après ils ont déliré devant 6000 personnes, et on fait le sketch tous les soirs, et les gens l'attendent, et les phrases sont cultes.
Bourrés aussi, Jacques?
Non, j'essaye de ne pas l'être. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que Francis Blanche dans ce sketch est le professeur Papa Macavro Steno Consinivisé Larguéropoulos.
Oula,
ça fait une ligne sur la machine
révisé,
à écrire.
Hein. Nicolas Briançon, on parlait à l'instant de Pierre Dac, candidat loufoque à l'Élysée. Est-ce que vous dites tout de même, alors il y en a eu Coluche 15 ans plus tard, mais ça fait déjà un petit moment, que ça manque des artistes comme ça, un peu fous, un peu marginaux, pour mettre, même dans des affaires sérieuses telles que la politique, un peu de leur personnalité?
Je suis pas sûr qu'on manque d'artistes marginaux, un peu dingues.
Pour regarder Walter,
là. Oui. Il y a un danger aujourd'hui qui est. Je viens sur Europe 1 pour parler de ça. C'est un peu gonflé, mais il y a un danger médiatique aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un danger de récupération de ça. Il y a un danger d'usure de ça.
Non, d'aseptisation aussi.
Oui, enfin, moi je pense qu'on c'est difficile d'empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire quand même. Alors le vrai danger, c'est l'autocensure plus que la censure elle-même, et enfin je crois, hein. Et j'ai l'impression aussi que c'est vrai que le danger, c'est qu'on vous voit beaucoup, donc on vous pressure, on vous use, et puis quand on vous a bien usé, bien pressuré, on vous jette. C'est un peu le système aujourd'hui. On voit passer des comiques qui ont des durées de vie quand même extrêmement réduites, quoi.
Hélène Segarra. Ma question, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui un Coluche ou qui a cette liberté de ton, ou un Dac, excuse-moi, on parlait
des proches,
est-ce que tu les vois avoir l'antenne? Moi je suis pas sûre.
Moi je pense qu'ils auraient l'antenne, mais je pense que paradoxalement c'est souvent l'opinion publique qui gueulerait, qui les empêcherait de s'exprimer, parce que tout d'un coup il y a des petits phénomènes médiatiques, on fait oh là là il a dit ça, vous vous rendez compte, il a dépassé les bornes, et donc...
Moi, j'ai parfois l'impression que, en fait, on parle souvent de censure, on imagine toujours l'État censurant, mais ça n'existe pratiquement pas. En fait, on peut dire pratiquement tout ce qu'on veut sur les politiciens. Là où il y a peut-être plus d'autocensure, c'est justement par rapport aux collègues, par rapport au monde médiatique, parce qu'alors on va pas être invité chez un tel, ou l'animateur va pas être content parce que l'autre vient pas pour faire sa promo, etc. À mon avis, c'est une censure plus forte à ce niveau-là.
D'ailleurs, tu sors d'ici, salut. D'ailleurs,
ce qu'il faut, c'est que le sketch soit imparable. Pierre Dac disait, le plus beau compliment qu'on puisse me dire en parlant de mes textes, c'est de dire c'est complètement con. Mais c'est vrai. Et là, on peut rien dire.
D'ailleurs, là, il y a l'humour, il y a la caricature, l'artiste engagé, et j'aimerais le regard du
engagé à pas n'importe quel prix. Hein.
Du politique aussi, Renaud Muselier, sur ces lignes que l'on franchit. Quand un artiste ouvertement vient dire au micro, parler de sa pièce et dire je vous dis, j'irai au meeting de François Hollande, je soutiendrai François Hollande ou Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous gêne, ce mélange des genres, vous comme politique?
Non, moi j'ai écrit un livre sur Daumier, qui était quand même un caricaturiste avant-gardiste, quoi, et qui a été condamné plusieurs fois d'ailleurs pour critiquer la société. Il le faisait avec beaucoup d'humour et il critiquait les hommes politiques à l'époque, et c'était quelque part un homme qui présentait avec grand talent, et je pense que l'humour ne peut supporter dans la critique politique le talent. Bon. À partir de ce moment-là, de s'exposer à titre personnel pour dire voilà, je suis candidat à la présidence de la République, je suis un humoriste, je critique la société, j'ai la caricature, il faut beaucoup de talent et beaucoup de courage, et c'est pas forcément facile. Par contre, quand vous êtes un homme politique et que vous vous retrouvez croqué par les uns ou par les autres, très honnêtement, c'est toujours très drôle quand vous voyez les autres. Quand c'est vous, ça vous fait jamais rire. Hein, voilà, très honnêtement. Ou alors, quelque part, vous avez un peu de recul sur vous-même et finalement, c'est pas si faux, quoi. Et ça vous permet de recycler ou de redresser un peu le système. Je pense qu'il faut quand même de l'humour plus que de la méchanceté.
On s'est déjà moqué de vous, Renaud Muselier, ou pas?
Beaucoup déjà. Ouais.
Mais comment, par les guignols de l'info ou par une caricature dans la presse ou...
Un peu tout. J'ai eu la presse, j'ai eu des dessins, j'ai eu les guignols. Mais très honnêtement...
Vous avez pris votre téléphone, vous avez dit qu'est-ce que c'est que ces conneries?
C'est surtout mes enfants qui ont ri.
Oui.
Et donc ça relativise un peu les choses, et me dit pas c'est passé à la télé, putain, ça mourrait de rire, se fout de ma gueule à l'école. Alors ça repose un peu les choses, et c'est sympa. Honnêtement, c'est sympa. C'est pas forcément, ça flatte pas l'ego. Hein.
Ça, les dents serrées. Ouais, quand même.
Mais non, pas les dents serrées. Non, parce que je me peux le recul sur les choses et je crois avoir plutôt de l'humour. Moi, j'ai gagné le prix de l'humour politique.
Oui,
c'est vrai.
Absolument.
Quand j'ai dit, puisque j'étais secrétaire d'État aux Affaires étrangères, quand Dominique Villepin, il fallait se présenter en fait. À l'assemblée des ambassadeurs là, et j'étais là tout nouveau, tout neuf dans le dispositif, et pour expliquer ma fonction qui était nouvelle en tant que secrétaire d'État, parce qu'il n'y avait pas de secrétaire d'État avant, j'ai dit devant tous les ambassadeurs de France à travers le monde qui étaient là, Dominique de Villepin fait tout et moi je fais le reste.
Ouais.
Mais il y a eu un cas de rire général et après j'ai pu décliner mon programme.
Ça
s'est très bien passé.
Merci beaucoup Renaud Muselier. On parle humour et politique ce soir, mais vous représentez l'Institut du Monde Arabe qui inaugure son musée qui a été fermé pendant 3 ans et qui fait peau neuve, et Pierre de Villeneuve l'a visité en avant-première et nous le racontera. Jacques Messis, journaliste, écrivain, comédien aussi maintenant. Pierre Dac, le parti d'en rire, c'est au Théâtre des Deux Ânes à 19h. Hélène Ségara est avec nous pour parler de l'Alhambra qui s'annonce 16, 17 et 18 mars avec ce nouveau single, entre autres Le Monde à l'envers, en duo avec son fils. Nicolas Briançon nous parle de cette pièce absolument magnifique, Jacques et son mec, de Milan Kundera au Théâtre de la Pépinière jusqu'au 31 mars. Tom David Bastoc, on le retrouve dans un instant pour myheartinvest.com. Laurent Mignard pour Ellington French Touch, comment le Duke Ellington s'est inspiré de la France qu'il a beaucoup aimé, il nous le racontera. Et puis Walter pour son spectacle Belge et méchant. Ce petit tour de table avant de retrouver tous nos amis, le temps d'une pause, le temps d'aimer avec Julien Clerc.
Europe 1. Wendy Bouchard.
Avec Renaud Muselier, entre autres, nous parlons ce soir de l'Institut du Monde Arabe qui inaugure demain pour le public son nouveau musée. Pierre de Villeneuve, vous avez eu la primeur de le visiter aujourd'hui.
Avant le ministre.
Avant Frédéric Mitterrand. Ouais. Mais pas très loin de Renaud Muselier. Racontez-nous d'abord la poésie nouvelle.
Ça a changé. Hein. Ça a changé. Hein. 25 ans après, la rénovation est complète. Vous savez, l'Institut du Monde Arabe, c'était. Il y avait un petit souci, un petit problème, c'est que les expositions temporaires prenaient un peu le dessus sur les collections permanentes. Donc on a voulu vraiment tout refaire. L'Institut du Monde Arabe, c'est ce bâtiment dessiné par Jean Nouvel, avec l'intérieur qui était, souvenez-vous, un peu gris, un peu canon de fusil. Il y avait comme ça ces longs couloirs. Là, vraiment, on a tout refait. Les salles sont claires, elles donnent
Donc
sur la scène.
Bon, c'est vous.
On, c'est pas moi. Ce sont les mécènes. Vous savez que ça a coûté 5 millions d'euros en tout. Renaud Muselier est là pour me corriger, mais il me semble que c'est le chiffre exact. 3 ans, 1 an et demi de travaux. Et puis le projet, on le pense déjà depuis 3 ans. J'ai eu une visite guidée par Éric Delpont, qui est le directeur des collections, qui prend ça vraiment très à cœur, parce que c'est quelqu'un qui est là depuis 25 ans. Donc il a eu beaucoup de responsabilités dans cet Institut du Monde Arabe. On entre dans une pièce qui est faite de miroirs et faite de vidéos qui ont été faites par des jeunes de l'école de vidéo de Lille. Et donc on a comme ça ce mélange de pays, de civilisations. On parle beaucoup du mot civilisation dernièrement, c'est très important. Et comme ça, voilà, des différents dialectes. Moi, j'ai appris aussi qu'on parlait encore aujourd'hui l'araméen dans certaines parties de la Syrie. Et voilà, ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Et après, il y a plusieurs salles qui sont, certaines dédiées au culte, d'autres qui sont dédiées à la vie quotidienne. Il y a 500 pièces au total, certaines qui sont disponibilité et possession de l'Institut du Monde Arabe, d'autres qui sont prêtées par le musée du Quai Branly, d'autres qui sont aussi en dépôt de différents musées jordaniens, syriens, tunisiens, vraiment de tous les pays du monde arabe. Vous avez des pièces en calcaire, des pièces en albâtre qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des pièces extrêmement rares. Et puis ce sont aussi des pièces, notamment des stèles, qui vous permettent de voir à quel point la langue arabe d'aujourd'hui a été constituée de différents dialectes. Et il y a eu tout ce travail sur l'écriture. On peut apprendre énormément de choses. Il y a quelques modules vidéo qui permettent aussi de comprendre mieux la langue, je cherche le mot en français, mais je n'y arrive pas. Je ne l'ai pas non plus en arabe, ne vous inquiétez pas. Non, justement, de s'apprivoiser cette langue et cette culture qui est. Et puis, effectivement, comme disait Renaud Muselier il y a quelques temps, il y a quelques minutes, une salle où il y a d'un côté un ancien Pentateuque, une partie de la Bible et un Coran. Et c'est là qu'on se dit que vraiment on devrait plus penser à ça. Je voudrais même citer une blague juive que dit souvent notre ami Michel Field. Vous savez, c'est la plus courte et la meilleure, c'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe.
Renaud Muselier, voilà pour une petite visite express avec Pierre de Villeneuve. Ce que vous avez souhaité avec Éric Delpont notamment, c'est justement de rendre vivant toutes ces cultures-là, même si l'on se trouve précisément dans un musée.
Et l'idée quand même, c'est à quoi sert l'Institut du Monde Arabe? Il y a une vocation internationale avec les autres pays, puis il y a une vocation franco-française aussi. On est dans un pays, et moi je suis marseillais, je sais de quoi je parle quand même, où il y a énormément de musulmans en France. Et est-ce qu'on est dans un art islamique ou est-ce qu'on est dans un art arabe? Est-ce que quand on fait la présentation de cette évolution sur ce territoire, est-ce que finalement ces peuples qui se sont croisés, qui se sont mélangés, qui ont appris tant de choses et qui ont fabriqué de la science comme les mathématiques ou l'algèbre, on ne se retrouve pas dans une démarche, on n'est pas dans un système religieux. On est un système territorial de développement humain. Et c'est un peu ce qu'on a voulu montrer à l'Institut du monde arabe, où finalement, tous ces peuples, toutes ces civilisations qui sont croisées, font en sorte qu'il y a une connaissance de son passé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et quand on ne connaît pas son histoire, quand on ne connaît pas son passé, on ne peut pas s'y retrouver. Et nous, nous sommes dans la République française, qui est une république laïque, qui est une belle démocratie, et qui finalement fait en sorte qu'elle doit intégrer tout le monde. Et c'est parce qu'on se comprend, qu'on se connaît, qu'on se parle, qu'on reconnaît ces différences, qu'on est capable de s'apprécier, de se tolérer, de se comprendre et d'avancer. C'est un peu ce qui est le sens de la démarche de ce musée, qui est, c'est vrai aussi en termes de présentation, et je tiens à vous remercier sur la présentation, parce que vous avez donné envie d'y aller. Moi j'invite nos compatriotes, qu'ils soient des cités, qu'ils soient cultivés, ou qu'ils ne soient pas, de venir voir. Parce qu'on découvre finalement que la vie des hommes et des femmes, par la culture, montre finalement qu'ils ont une histoire. Et qu'aujourd'hui, ils vivent ensemble. Et qu'il ne faut pas rentrer dans le regard négatif sur l'autre.
Complètement.
Et là, je crois que ce musée, en termes d'exposition permanente, montre bien cette histoire au fil du temps.
Oui, si je vous comprends bien, il y aura beaucoup d'échanges. Ça a commencé avec ces prêts de musées de Tunisie, de Syrie, etc. Le but aussi, c'est d'aller apporter un bout de ce musée dans d'autres contrées françaises, un peu comme ce que fait le Centre Pompidou avec son Centre Pompidou mobile. Vous avez pensé à ça aussi?
Oui, on a pensé ça aussi. Alors, on a des expositions permanentes et des relations qui sont prises notamment avec la région Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Je suis en train de travailler pour essayer de faire la même chose dans la région Provence-Côte d'Azur. Ça, on peut le faire en France. Et puis à l'extérieur, avec tous les pays arabes avec qui on travaille. Que ce soit la Grande Arabie, en fait, où on se retrouve avec le Yémen, qui nous ont prêté des œuvres absolument extraordinaires. Et quand on voit ce travail qui est fait, où il y a, par exemple, je vous donne un exemple très simple. On va faire très rapidement une présentation d'une exposition temporaire, là, sur le corps dévoilé. Corps dévoilé aujourd'hui, quand on en parle aux Arabes, c'est quand même pas rien.
Oui, c'est pas évident.
C'est pas rien. Mmh. Bien, quand on voit dans la culture arabe ce qu'ont fait les artistes arabes sur le corps dévoilé, sur les femmes nues, ou juste présentées de façon sympathique, si je puis dire, mais on se retrouve dans un schéma où on se rend bien compte qu'il y a le respect de l'autre, il y a le respect de la femme, il y a le respect du corps. Et que donc, il ne faut pas aller trop vite par rapport aux difficultés qu'on rencontre au quotidien aujourd'hui et qui sont parfois sectaires et qui nous amènent dans des dérives extrémistes. On est dans une démarche ouvre les choses et on se respecte plus. Et là, l'histoire du corps dévoilé montre bien qu'on a une capacité d'écoute, de vision et que les Arabes eux-mêmes ont cette capacité.
Vous aussi, vous en donnez envie, Pierre Devineau.
Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était une richesse immense pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont peut-être d'origine de différents pays arabes pour qu'ils puissent aller voir leurs racines. Est-ce que vous ne pensez pas au contraire que ces jeunes-là n'ont pas envie de se dire qu'il y a des racines arabes parce que justement ils sont très français et au contraire ils voudraient je vois Hélène Séguéra qui dit non, mais justement je pose la question de manière totalement candide.
Moi, vous savez, je suis un élu d'une ville qui est quand même particulière, Marseille, donc souvent pour reprendre certaines blagues, c'est la première ville arabe dans le Paris-Dakar, vous savez, dans cette ville nous sommes grosso modo 850 000 habitants, on est suivant les estimations entre 200 et 300 000 musulmans quand même. La plupart du temps nord-africains. Là où on a toujours des problèmes, c'est quand on ne sait pas d'où on vient. Je suis français, je suis quoi? Je suis algérien, je suis français, je suis quoi? Je suis marocain. Comment je fais, moi? Qu'est-ce que je suis là-dedans? Quel est le regard qu'on porte sur moi? Comment j'intègre dans la République, dans le cadre des règles et des lois de la République que je dois appliquer? Comment je peux exprimer ma religion alors que finalement, moi, j'ai rien demandé à personne, je suis arrivé là, quoi. Mais je suis intimement convaincu que, en passant par l'Institut du monde arabe, en respectant les autres, en travaillant, en respectant les règles et les lois de la République, en étant laïque, tout en gardant sa propre religion, je crois qu'on s'implante. On se respecte, on se fait respecter.
En tout cas, ça donne le choix.
Et on s'estime.
Ouais. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, en tout cas, ils ont le choix, ils peuvent y aller.
Jacques Pessis.
Pierre Dac avait une réponse. Il disait à la question « Qui suis-je? D'où vais-je? » Il répondait « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. »
Et quand on demande à Jacques et son maître où ils vont, alors ça c'est une autre histoire, hein, Nicolas Briançon.
C'est vague, oui. On termine sur un joli mot, c'est en avant.
C'est bon,
mais
en avant.
En avant, c'est...
C'est yalla. Yalla.
C'est n'importe où, et c'est ce que dit le maître, et que vous regardiez n'importe où, partout, c'est en avant.
Tom David Bastock, un petit mot, ça aurait pu être une dimension, la culture arabe, dont on a choisi de désenclaver justement la culture. Alors vous, vous êtes attaqué à l'art contemporain. Rappelez-nous, on connaît My Major Company, ces internautes qui produisent, qui aident à faire grandir comme ça un artiste et en l'occurrence un chanteur. Vous, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que c'est une plateforme internet, mais on va chercher une œuvre d'art qui, à un moment donné, pourra nous acquérir au moins pour un petit morceau.
Alors, c'est pas vraiment My Major Company, puisque nous, on se positionne comme... On propose finalement que des œuvres d'artistes cotées. D'accord, 80% de nos artistes sur le site font partie du top 500 des artistes contemporains au monde, dans le classement. Donc, le principe, pour le résumer, il est très simple. On propose toutes les semaines entre 3 et 5 œuvres d'artistes contemporains cotés. Généralement, on essaye vraiment de se coller au plus proche de l'actualité. On a une artiste sur le site qui s'appelle Catherine Friedrichs, qui a fait un résultat mardi chez Hercurial assez impressionnant, puisque son œuvre était estimée 5 800 €. Entre 5008 et 6002, elle a réussi à faire une vente à 14 650 €, ce qui est quand même beaucoup aujourd'hui. On a un artiste comme Karl Lagasse qui va avoir une exposition le 15 mars, si je ne me trompe pas, chez Arco France. Et voilà, donc.
Alors, si moi j'ai envie d'acquérir un petit bout de cette œuvre.
Justement, l'avantage, c'est que voilà, aujourd'hui vous avez envie d'acquérir une œuvre de Catherine Friedrichs. On divise le prix de l'œuvre par 100. D'accord. Et vous achetez des actions d'œuvres d'art ou des parts d'œuvres d'art.
Alors, je vais poser ma question. Quel intérêt si on ne peut pas l'avoir chez soi? Parce que
justement, on peut l'avoir chez soi. En achetant 5 parts de l'œuvre, vous pouvez l'avoir chez vous pendant un mois. Alors, un mois, c'est court. Mais quand on
le temps
pas
de recevoir des amis, toute la famille, du monde entier.
Faut faire les dîners
on fait
à ce moment-là.
Tous les dîners.
Il y a une fête pendant un mois. Tous les soirs pendant un mois.
Mais l'avantage, c'est que.
Vous la pétez pendant un mois.
Voilà, exactement. Mais quand on est amateur et qu'on n'a pas forcément les moyens, mais quel bonheur d'avoir un Jeff Koons, un Murakami, un Damien Hirst.
Un Jeff Koons, c'est 2 minutes quand même. Les types arrivent, le dépôt, ils font vraiment les grands pages à ce moment-là.
Bonne vanne.
Non, Jeff Koons, c'est aussi un mois, c'est-à-dire que c'est vraiment.
On ne le sort pas de la caisse.
Non, on monte la photo du Jeff Koons. Non, mais sérieusement.
Mais Murakami, il a atteint des prix exorbitants, là.
Il a atteint des prix exorbitants avec son exposition, justement, à Dubaï, à Doha. Qui est une exposition juste sublime, puisqu'ils ont dû même casser le musée de Doha pour pouvoir faire rentrer ses œuvres. C'est juste impressionnant. Et justement, ils ont réussi finalement à mêler deux mondes complètement différents, Dubaï et le Japon. Donc, et avec la collaboration de la France, puisque la galerie Perrotin a aussi fait son travail là-dedans. Et voilà, donc pour en revenir au concept, on a des Murakami sur le site. Alors, Murakami, ses œuvres, les prix sont tellement exorbitants.
Combien
on propose, ça dépend, c'est
combien
très variable.
Bah non, mais
ça peut aller de 100 000 à 2-3 millions d'euros.
Rien en dessous de 100 000.
Ouais, mais vraiment.
Mais c'est déjà.
Ouais, bon, à la maison quand même, faut rentrer le Murakami. Hein.
Mais à non, mais.
Ça plaît pas à tout le monde.
Ça dépend, il y a des œuvres.
Par exemple, de Murakami, on a des éditions de Murakami qui sont beaucoup plus accessibles, puisque aujourd'hui, pour 15 euros, vous achetez une part d'un Murakami, pour 16 euros, 17 euros, on a vu des résultats de vente de print doublé, triplé, donc c'est extrêmement variable.
Mais vous vendez bien votre truc et vous avez raison, Jacques Pessis, ça vous semble pas si simple que ça pour vous?
Non,
vous
mais
pas,
que,
pas les moyens.
Non, on n'a pas les moyens, mais en même temps, j'ai tellement vu d'œuvres d'art. Je me souviens de Daniel Spoléry qui avait enterré son œuvre à Jouy-en-Jaujas au centre quartier, et on en reparle aujourd'hui comme un événement culturel important. Donc il y a la culture de l'art contemporain est en pleine expansion en permanence.
Mais sur le plan financier, l'intérêt, c'est quoi? J'achète une action et c'est comme une action en bourse en fait.
Exactement.
Et donc à ce moment-là, il y a une défiscalisation qui vous permet.
C'est un investissement.
Et donc vous n'avez pas l'œuvre à la maison, mais plutôt que d'acheter une action dans le cadre de la mondialisation qui ne fonctionne jamais, là, on se retrouve avec une défiscalisation en France et avec une action sur l'œuvre d'art.
Exactement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît le marché de la bourse qui est quand même un peu compliqué. Hein. Donc le marché de l'art aujourd'hui, d'abord, est une valeur refuge. Tout le monde. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais maintenant, on voit...
C'est un marché qui ne connaît pas la crise.
Exactement.
Ça va exciter beaucoup de spéculation. Alors.
Bah alors, mais justement, l'avantage, c'est que...
C'est comme la bourse.
On arrête... Non, parce qu'on arrête la spéculation à 4 ans. C'est-à-dire qu'on propose l'œuvre, d'accord. Par exemple, là, on va proposer une œuvre de Catherine Friedrichs à 6000 euros, donc 60 euros la part. D'accord. Donc pour 300 euros, vous l'avez chez vous pendant un mois.
Est-ce
d'abord.
Que quelqu'un a essayé de tout acheter, par exemple?
Oui, mais oui. On en a eu une avant de cette même artiste-là. Mm-hmm. Et on a eu un internaute qui, au fur et à mesure du temps, s'est fait plaisir, voilà, en fonction de ses moyens. Et au final, il a acheté son œuvre complète.
Et à la fin de l'année, il le sort de ses impôts.
Est-ce qu'à un certain moment, on décide tous ceux qui sont dans le tableau, enfin ceux qui le possèdent, est-ce qu'on décide de le vendre pour faire une plus-value?
Alors, non, vous pouvez le vendre sur la bourse d'échange qu'on a créée, sur le site internet, c'est-à-dire que vous pouvez fixer votre prix de revente. Après, s'il y a acheteur
en
face...
Tu peux vendre ta part, mais tu ne peux pas vendre le tableau en entier.
Alors,
on ne peut pas se dire, tenez, on est 5 sur le tableau, on va le vendre chez Christie's et on va se faire plein d'argent.
Alors, on s'en occupe à 4-5 ans. On s'en occupe à 4-5 ans, c'est-à-dire que... Au bout de 4-5 ans, quand on estime que l'évolution de la cote sur le marché réel a vraiment évolué...
Oui, terminez votre phrase.
A vraiment évolué, alors on revend l'œuvre en salle de vente à un réseau de collectionneurs, à des particuliers.
Il ne faut pas s'arrêter quand je lève la main, parce que sinon ça fait des... Laurent Mignard, 30
secondes. Non, mais le sujet, ce n'est pas l'argent. Ce qu'ils font, c'est absolument extraordinaire. Je parle devant Renaud Muselier. Il n'échappe à personne que le monde change. Il n'échappe à personne qu'on est dans un monde fini et que le monde de l'avoir est bientôt terminé. Et là, ils sont en train d'ouvrir une fenêtre, comme plein d'autres, sur le fait de à la fois posséder, mais autrement posséder avec l'être... C'est-à-dire qu'un mois, c'est largement suffisant pour faire partie d'une communauté. Et moi, je trouve que c'est prodigieux ce que vous faites là.
C'est gentil.
C'est une idée géniale. Merci beaucoup. On se retrouve juste après.
On va avoir un Murakami gratos,
juste après les infos avec nos invités. Laurent Mignard qui va nous parler de Duke Ellington, Renaud Muselier pour l'Institut du Monde Arabe, Hélène Ségara pour son tourne-champ, Jacques Pessis pour Pierre Dac, Nicolas Briançon pour Jacques et son maître, dont on va reparler. Et puis Walter, notre Belge, et méchant au point, virgule. Il est 22h, merci de nous rejoindre.
21h, 22h30.
Rendez-vous à l'hôtel.
La liaison est établie, je pense qu'ils nous entendent.
Mais je regardais ce qu'il est marqué.
Il est marqué Europe 1, vous êtes bien là, vous êtes arrivé, il n'y a pas de problème.
Madame, monsieur, bienvenue à l'hôtel.
Ici Europe numéro 1.
Europe 1.
Rendez-vous à l'hôtel.
Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez seulement, bonsoir à tous. Pour les autres, eh bien, je me réjouis encore de cette demi-heure qu'on va passer avec vous depuis l'Hôtel Coste, où l'on vous a concocté une jolie table d'humour et d'esprit copain dans l'art, vous l'avez constaté je crois. Hélène Ségara en tournée en France avec Le Monde à l'envers à l'Alhambra. Très bientôt Nicolas Briançon, qui est décidément un metteur en scène et un acteur de génie, car après le triomphe d'une songe d'une nuit d'été, il remonte Jacques et son maître, hommage à Diderot, 15 ans après une première version. C'était votre première mise en scène, Nicolas?
Génie, c'est fort, hein, Wendy.
Moi je dis genius.
D'accord, ok.
15 ans. Il y a 15 ans, c'était le premier spectacle.
Oui, c'était ma première mise en scène et c'était une mise en scène à l'époque très à l'énergie, voilà, avec beaucoup d'envie. J'avais eu la chance ado de voir la création de la pièce à Paris. Et je m'étais dit en la voyant, alors que je faisais pas encore ce métier, un jour je vais jouer ce rôle là voilà. Et puis
le rôle du valet.
J'ai eu l'occasion de pouvoir monter la pièce, de jouer le rôle, et ça a été la rencontre avec Kundera, qui était une rencontre vraiment passionnante, merveilleuse. C'est rare de pouvoir croiser les auteurs qu'on joue, surtout à ce niveau-là et surtout à ce degré-là de qualité. Et bon, outre le personnage qui est absolument fascinant, c'est vrai que c'était passionnant de pouvoir dialoguer avec lui, de ses intentions, de ses envies, pourquoi et comment il avait voulu monter cette pièce. Et je crois qu'il a eu l'heure d'aimer ce spectacle-là. Et je me suis dit que c'était une pièce que je remonterais dans ma vie, un peu régulièrement, comme ces personnages n'ont pas d'âge. Ils me permettent de me réétalonner, de voir où j'en suis, de voir comment j'ai vieilli, de voir comment on a vieilli.
Avec Yves Pignon,
et moi, puisque
notamment.
C'est mon maître.
Oui.
Et c'est assez rare dans le théâtre. On fait un art qui est par essence extrêmement fugitif qui disparaît, la représentation sitôt jouée est déjà terminée, pouvoir retrouver une œuvre, la retravailler, essayer de l'approfondir un peu, revenir dessus, essayer de corriger les erreurs qu'on a faites, c'est une chance et voilà, j'ai eu ce bonheur là.
Il faut dire aux auditeurs, Nicolas, que lorsqu'on parle de Diderot, lorsqu'on parle de Kundera, on peut être un peu effrayé en se disant ouh là là, c'est philosophico, poético, et finalement la version est très pleine d'humour et pleine de leçons de vie. C'est un peu métaphysique, c'est vrai, sur des questions qu'on se pose un peu.
Oui, mais la métaphysique, elle est avec nous tous les jours. Moi, je pense que le propre d'une grande intelligence, c'est sa lisibilité, c'est sa clarté, c'est cette façon qu'a Kundera de venir nous parler directement au cœur de choses très profondes avec des mots très simples. Mmh. Et je ne crois pas aux cuistres qui compliquent le discours, voilà, jamais, ni au théâtre, ni ailleurs, ni en philosophie, ni en littérature.
Des leçons de vie, des aphorismes, ça c'est pour vous plaire, Jacques Pessis, oui, avec ce spectacle sur Pierre Dac.
Bien sûr, ce que Pierre Dac disait, ceux qui ne savent rien en savent moins toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux.
Il a révolutionné un petit peu, on l'a entendu, car on lui a posé beaucoup de questions, notre rapport à l'art contemporain, en le démocratisant. Tom David Bastock, avec son site internet My Art Invest, qui permet d'acquérir à bas coût d'abord, et puis en fonction de vos moyens ensuite, une œuvre d'art, en tout cas une part dans notre œuvre d'art. Notre ami Walter est toujours avec nous, avec grand plaisir. Humour belge, made in France, hein?
Oui, made in France, mais enfin, j'avais commencé en Belgique, j'ai fait quelques pas en Belgique, et puis je suis rapidement arrivé à Paris, notamment au Point Virgule. Mais quelle est votre question?
Vous avez prolongé ma phrase, c'est formidable.
Parfait,
et puis Laurent Mignard dirige le Duke Orchestra et ses 15 musiciens. Alors vous serez, Laurent, le 12 mars au Palace avec ces musiciens-là. On va écouter tout de suite une de vos compositions autour de l'œuvre de Duke Ellington et vous allez nous expliquer ce rapport charnel qu'il a eu avec la France et avec Paris notamment. D'abord, voici pour vous Oh la belle vie. Duke Orchestra, Laurent Mignard, merci beaucoup pour cet hommage à cette chanson dont on se souvient, des notes de Sacha Distel, évidemment,
Distel,
Jacques Pessis.
Qui a été connu aux États-Unis avant la France, grâce à Tony Bennett, qui était tombé dessus par hasard et qui l'a enregistré.
Ah ouais. Je vais fredonner Hélène Segarra, c'est beau. Hein.
J'ai connu Sacha, mais j'adore Tony Bennett.
Alors, Ellington French Touch, c'est un spectacle, Laurent Mignard, au spectacle musical le 12 mars au Palace, où vous mettez en scène, un peu comme le fait Jacques Pessis dans ses spectacles à lui, dans ses bios musicales, une artiste américaine qui va découvrir la French Touch, justement, de Duke Ellington et sa romance particulière et spirituelle avec Paris.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, moi, j'avais deux options. Soit on fait comme d'habitude, c'est-à-dire on sort un album Ellington French Touch, à la fois des chansons françaises qu'Ellington et Billy Strayhorn, il ne faut pas l'oublier non plus, ont orchestré, plus dans cet album des inédits, des nouveautés, des créations à partir du mature d'Ellington. Bon, et puis on joue ça en concert, comme d'habitude. Et puis je trouve qu'Ellington ne mérite pas ça et que c'est tellement intemporel, c'est tellement moderne qu'on peut se permettre de non pas de revisiter, mais de mettre en scène sa musique. Et donc, au Palace, comme on l'a fait l'année dernière, et je dis ça avec un petit clin d'œil complice à Hélène, à l'Alhambra, puisqu'on avait fait un beau spectacle l'année dernière à l'Alhambra, là on recommence, mais au Palace, qui a été transformé dans une très belle salle de théâtre, et on va mettre en scène la French Touch d'Ellington avec différents outils. En fait, en effet, on invite Nicole Rochelle, qui est une chanteuse, comédienne, danseuse, qui jouait le premier rôle du spectacle Joséphine. De Joséphine dans Savary. C'est une bombe, cette fille.
Merveilleuse.
C'est une bombe, et en plus, elle est happy face comme on aime, quoi. Et elle va être là. Et en fait, l'argument, c'est qu'elle est à New York pendant que nous, on est à Paris. Elle entend parler de cette bande de fondus qui font un travail sur Ellington. Et tout d'un coup, elle tombe en arrêt devant sa télé parce qu'elle voit que Ellington est à Paris. Réellement. Mm-hmm. Et il dit « Bonjour, je suis à Paris. » Et alors là, elle se dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Et en effet, on va présenter, Ellington sera avec nous. Et il va nous parler, il va nous dire plein de choses. Et elle se dit, c'est pas possible, il faut que je prenne l'avion. Donc elle dit, bougez pas, j'arrive. Et elle arrive à Paris et elle va rencontrer un musicien de l'orchestre avec lequel elle va avoir évidemment une complicité. Et puis elle va tomber dans cette atmosphère du Paris éternel du film Paris Blues 1961. Et puis elle va découvrir également la musique qu'Ellington a écrite pour Jean Villard au TNP en 61, qui est la pièce la seule musique écrite pour le théâtre par Ellington, pour Turcaret.
Ouais.
Et elle va découvrir ça et elle va nous dire, mais c'est pas possible. Cette musique-là n'existe même pas. Elle existe nulle part au monde. Et on va la présenter au Palace. Et puis, elle va comme ça poser des questions à Ellington. Elle va lui demander, c'est quoi la France pour vous? C'est quoi la Côte d'Azur? Et on va voir Ellington diriger l'orchestre en Côte d'Azur. Enfin, bon, il va se passer plein de choses.
Qui a marqué Ellington en France? Parce que dans ses mémoires, par exemple, dans son autobiographie, il raconte que l'un des citoyens de Paris qu'il a le plus apprécié, c'est Django Reinhardt. Il y a eu d'autres comme ça, personnalités qui l'ont fait évoluer et qui l'ont fait aimer, cette ville.
Mais il y en a un qui a énormément compté pour lui, c'est Maurice Chevalier.
Oui.
Parce qu'à New York, le premier concert qu'Ellington a joué à New York, et je parle bien d'un concert, à l'époque on ne faisait pas des concerts, on faisait des revues, on faisait des balles. La première fois qu'il a joué en concert, c'était en première partie de Maurice Chevalier à New York.
Et il a accompagné Maurice Chevalier arrivant aux États-Unis lorsqu'il a tourné Le Lieutenant Souriant et qu'il est devenu star. Il affichait complet avec des concerts où il accompagnait Chevalier.
Exactement.
En anglais.
Et c'était au Fulton Theatre. Oui. Et c'est un truc qui a été un baptême pour Ellington. Et quand il a retrouvé Maurice Chevalier en 69 pour quand il a fêté ses 70 ans à Paris, Maurice Chevalier lui a dit vous me ramenez à ma jeunesse, et il a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais, il a offert Ellington son canotier.
Laurent Mignard, pourquoi avoir choisi Duke Ellington? C'était comme ça un attachement réel, viscéral que vous aviez pour lui, plutôt que pour Armstrong par exemple, plutôt que pour Glenn Miller ou d'autres jazzman?
Moi j'ai pas choisi, je suis trompettiste, je joue de la trompette de poche avec mon pocket quartet et les choses, je mène ma carrière de jazzman improvisateur, d'ailleurs dans la même mouvance que celles qui ont été décrites tout à l'heure sur les communautés artistiques. On a ouvert un blog qui s'appelle Good News, qui justement témoigne de toutes les initiatives positives qui changent le monde. Moi, je suis fan de ce monde qui change. Je peux pas m'empêcher de croire que c'est une bonne nouvelle, qu'il y a des révolutions Facebook, qu'on soit plus dans la dimension communautaire que dans la possession. Mais et ce sont des valeurs d'avenir. Mais il se trouve que il m'est tombé dessus, Ellington. On m'a demandé en 2003 de refaire le concert de musique sacrée à Saint-Sulpice d'Ellington qu'il avait donné en 69. Ouais. J'ai monté un orchestre dédié et depuis c'est parti. On a joué à Beyrouth, d'ailleurs, au pied du Mont Harissa, pour refaire la Faris Suite, qui était la suite qu'Ellington avait écrite pour le monde arabe. Et ensuite, on est allé jouer à Cork, à nouveau la musique sacrée. On se retrouve à Jazzavien, etc. Et on est embarqué dans un truc avec ces musiciens qui, avec une responsabilité pour servir l'œuvre d'Ellington. Et personne nous a rien demandé.
Renaud Muselier tourne et retourne la pochette de ce disque, Ellington French Touch.
Il
ça
cherche
vous inspire,
le disque.
Renaud?
Non, moi je suis très, très impressionné par les créatifs. Moi, vous savez, je suis un médecin de formation, donc un diagnosticien, donc je ne fabrique rien. Quoi. Mais pour autant, dès qu'on on a des gens passionnés qui nous expliquent ce qu'ils font, on se régale.
Des pédagogues.
Et quand on voit Laurent Mignard qu'on écoute là, et qui est lui-même reconnu très clairement comme le meilleur ambassadeur européen de l'œuvre du Duke Ellington, la façon dont il en parle. On a envie d'écouter le disque. C'est pour ça que je retourne le disque dans tous les sens en me disant que je vais aller l'écouter en vitesse.
C'est vrai qu'il en parle très bien.
Parce que c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et puis comme le titre du disque, c'est le French Touch, bah voilà, je me retrouve naturellement en disant bon, ça c'est en anglais, mais quand même c'est notre savoir-faire patrimoine. Français. Voilà.
Tom David, Basta, vous vouliez réagir. Oui. Vous qui représentez un peu l'art contemporain ce soir.
Pour rebondir sur la partie communautaire, My Art Invest, en fait, est en train d'ouvrir lundi prochain un réseau social à l'intérieur du site sur lequel en fait chaque personne va pouvoir finalement discuter de façon privée ou de façon publique sur leur mur en finalement on va avoir finalement une partie assez conseil de chacun, c'est-à-dire que chacun va apporter sa petite touche. Donc voilà, on a vraiment créé, on est en train de créer en fait un réseau social à l'intérieur de My Art Invest qui pourra regrouper tous les investisseurs d'art contemporain.
Et Hélène Segarra, sur le jazz et vos influences jazzy à vous, Duke Ellington fait partie de ce patrimoine?
Oui, et Duke Ellington et d'autres, parce qu'en fait j'ai démarré en chantant dans des restaurants et dans des hôtels sur la Côte d'Azur, et que ça faisait partie de mon répertoire.
Les standards, bien sûr.
Les grands standards qui sont totalement universels, c'est-à-dire que n'importe où vous alliez, quelle que soit l'origine du public que vous avez devant vous, les grands thèmes comme on vient d'entendre, The Good Life par exemple, c'est vrai que tout le monde les a déjà entendus.
Alors c'est des piano-voix à l'époque, vous retrouvez avec les 15 musiciens de Laurent Mignard, ce serait quelque chose.
Ah, c'est formidable.
Un big band. C'est la tradition du big band.
Oui, le big band. Il se trouve qu'Ellington a beaucoup écrit pour les femmes depuis Satin Doll, Sophisticated Lady et tous ces et la Perfume Suite de 1944 ou 5 qui traite des portes. Vous vous rendez compte? Un type qui écrit une suite en 5 morceaux qui traite des parfums des femmes. Chaque parfum correspond à une personnalité. C'est très avant-garde.
Oui, mais avec ces parfums, il a touché des droits d'odeur.
Oh, Pierre Dacha, sors de ce corps. Allez, Gigi, c'est pour vous ce soir, la French Touch de Duke Ellington. Laurent Mignard, Duke Orchestra, le lundi 12 mars à 20h30 au Palace. Merci beaucoup, Laurent. Un petit mot, Nicolas Briançon. Le Songe d'une nuit d'été était un spectacle aussi musical.
Oui.
La musique, elle accompagne. Ouais, elle vous accompagne énormément. C'est un personnage que vous créez comme ça assez spontanément.
Quand Kundera a parlé de la représentation du spectacle que nous jouons là, de Jacques et son maître, il a parlé justement il a parlé d'abord musique. C'est un écrivain qui est fasciné, passionné par la musique, qui a écrit beaucoup de choses sur la musique, autour de la musique. Et il a parlé de mouvement. Il a parlé comme d'une symphonie, en gros, qu'on avait monté ça comme une symphonie. Un premier mouvement allegro, et puis
rapide.
Trois temps.
Voilà. un deuxième acte vivace, et puis un dernier acte très lento, et c'est ce qu'on a voulu. Bravo. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est vrai qu'il y a un accordéoniste qui est bouqué, qui fait le lien entre ces trois actes là, voilà. Et dans le son, il y avait beaucoup de musique. Ça fait partie du spectacle.
L'accordéon, c'est important pour vous, Jacques Pessis. Aurélien Noël vous suit depuis plusieurs biographies musicales. C'est magnifique, c'est charmant, et c'est tellement évocateur, un accordéon.
Oui, parce que l'accordéon, en plus, aujourd'hui, grâce à la magie de l'ordinateur, on peut faire tous les instruments de musique. Et Aurélien accompagne Virginie Visconti dans le spectacle pour quand elle chante Pierre Dac. Et c'est vrai que l'accordéon peut permettre de faire du violon, du piano, et que toutes les notes, même les plus anciennes, sont toujours d'actualité grâce à cet instrument.
Allez, on se retrouve dans une petite seconde. Jacques Pessis, Hélène Ségara, Nicolas Briançon, Renaud Muselier, Tom David Bastoc, Laurent Mignard, Walter à suivre avec son humour belge, caustique, et Pierre de Villeneuve. Et deux petits coups de cœur DVD pour vous, à tout de suite, dans ce Rendez-vous à l'hôtel.
Rendez-vous à l'hôtel, Europe 1.
Wendy Bouchard.
Pierre de Villeneuve, que voudriez-vous offrir à nos invités ce soir?
Merci
si je vous dis cinéma et DVD.
Merci.
Eh bien, un DVD et un film qu'on peut aller voir en ce moment sur les écrans. D'abord, le DVD, c'est, vous savez, le film avec Piccoli, le film de Nanni Moretti sur le pape, Habemus Papam. Mm-hmm. Et c'est peut-être la première fois, les seules fois que j'entends parler du pape dans la presse ou dans l'actualité, c'est peut-être ce week-end quand Benoît XVI forme un nouveau conclave pour son futur successeur, ou alors on se moque beaucoup du pape. Et alors, c'est une fonction qui n'est pas forcément simple. On se rend peut-être pas forcément compte que c'est quand même le chef des chrétiens, c'est celui qui, le chef des catholiques en tout cas, c'est celui qui doit mener une. Il y a un boulot quand même qui est celui de pape et qui est vraiment pas simple. Et puis il y a un processus de désignation du pape qui est assez séculaire et qui est assez compliqué. Et donc Michel Piccoli joue ce pape qui est nommé un jour. Parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon, et il y a peut-être un complot d'un des papes qui est très puissant, d'un des cardinaux qui est très puissant, et qui va dire aux autres, votez pour celui qui est au fond, là, qui dort un peu, on sait pas trop, c'est un peu comme la blague de Coluche. Et Michel Piccoli, qui est le cardinal français, devient pape, et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il a beau s'agenouiller un milliard de fois devant l'autel, il prie Dieu, il demande à Dieu de... C'est marrant parce que je dis ça, j'ai l'impression de raconter une blague, mais en fait c'est très très sérieux. Il prie Dieu et il demande de recevoir cette énorme
charge
qu'il a et qu'il pourra exercer. Il n'y arrive pas. Et finalement, donc, au moment de passer au balcon où on le désigne, nous, Habemus Papam, nous avons un pape, la fumée blanche sort du Vatican, eh bien il n'y arrive pas, il n'arrive pas à aller au balcon. Et il fuit, il va arriver dans Rome, il va fuir, et il y a une double... lecture de ce film au moment de cette fuite. D'abord, tout simplement, il a envie de devenir un peu comme tout le monde, parce que ce que montre aussi le film de Nanni Moretti, c'est qu'on est dans un cénacle extrêmement puissant, extrêmement fermé, il n'y a pas de vue sur l'extérieur. Et justement, et c'est là la transition, c'est que la deuxième chose, c'est qu'il va observer les gens. Il va observer les gens, il va retrouver ses premières âmes et ses premières amours qui sont le théâtre, il va retrouver dans un hôtel 2 étoiles où il s'est installé parce qu'il a envie de fuir les gens, il a plus de téléphone portable, il veut surtout pas qu'on le retrouve, il va voir une pièce de théâtre, il va réciter du Tchekhov avec les gens. Et il y a, voilà. Et puis Michel Piccoli, il a plus d'âge, on l'a vu dans tellement de films.
Il est un pape idéal.
Et c'est un pape idéal, d'abord parce qu'il parle couramment italien, et ça c'est un tout petit détail mais qui a son rôle dans le film. Il y a Jerzy Sztur qui est un des grands acteurs polonais qui joue dans le film, qui est qui joue le porte-parole, qui essaye par tous les moyens de le retrouver dans Rome et qui essaye de le convaincre. Franchement,
le médecin des âmes, Nanni Moretti,
Nanni Moretti qui est le psychologue qui essaye de le faire changer d'avis. Donc qu'il n'y ait pas une sorte de barrière en disant on va parler du pop, ça va nous ennuyer, etc. Pas du tout. C'est un film presque d'action. C'est un film vraiment très psychologique, très intéressant. Habemus Papam.
C'est pas une blague, mais il y a beaucoup d'humour dans le film. Il y a une scène où le psychologue veut parler au Falco, qu'on voit dans la bande-annonce, je pense d'ailleurs, où il lui pose des questions sur sa mère, et tous les cardinaux sont autour du pape en train d'écouter, comme s'il allait pouvoir s'exprimer. C'est très, très amusant.
Hélène Ségara, vous l'avez vu?
Je ne l'ai pas vu, non, mais je sais que Piccoli y est fabuleux. Non, j'allais dire, quand il dit il y a une espèce de machination, et j'allais faire de l'humour en disant une machination, là-bas, il y en a eu plus d'une, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Le Vatican.
Mais là, c'est une douce machination. Il n'y a pas de. On a voulu tuer le pape, effectivement, plusieurs fois.
Petit cadeau personnel pour les gourmands autour de cette table, le roman du chocolat aux éditions du Rocher. Ça, c'est une œuvre marginale de Jacques Pessis, mais amateur de chocolat. C'est important, c'est un péché capital.
C'est capital. La France, c'est le pays du chocolat et on le démontre.
Oh là là, attention. Hein.
Attention.
Non, c'est vrai. On
est mieux que
les Belges.
Le Belge, on va entendre rugir dans quelques instants. Renaud Muselier, simplement, vous êtes là pour l'Institut du Monde Arabe, mais aussi pour Marseille, capitale européenne de la culture. Ce sera l'année prochaine. Grande entreprise vraiment culturelle dans la ville que vous aimez, avec notamment un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui se construit et qui s'élabore bien sur le Vieux-Port. Ça a l'air sublime.
Alors, non, c'est absolument magnifique. C'est à l'entrée du Vieux-Port. Donc que vous sortiez de ce bassin phocéen où que vous arriviez dans la rade et que vous voyez Marseille, vous êtes avec une luminosité extraordinaire. Vous êtes à cette entrée du port, vous avez le palais du Pharaon, le fort Saint-Jean, le fort Saint-Nicolas et ce musée des civilisations méditerranéennes fait par l'architecte Ricciotti qui est avec la cathédrale majeure derrière, qui est quelque chose d'absolument sublime. Alors, ça permet de faire un petit clin d'œil amoureux pour Marseille. Je me permets de dire à nos hôtes là, de m'excuser parce que je suis pas très objectif. Bon, Marseille d'origine, voilà. Donc, c'est vrai qu'on nous caricature tout le temps, un peu les voyous, un peu les Kalachnikovs, un peu l'OM.
Enfin, il n'y en a jamais.
On a, voilà. Et si ça peut arriver, c'est simplement la cerise sur le gâteau. Parce que nous avons quand même battu Toulouse, Lyon, Bordeaux pour devenir, pour la France, Marseille, capitale européenne de la culture. Et donc là, l'année prochaine, nous avons, nous, la capacité d'organiser, de recevoir l'Europe entière à Marseille sur la culture. Pour la culture, c'est quand même pas rien.
Merci beaucoup Renaud Muselier. Allez, place à la Belgique. Vous voulez nous expliquer ce soir comment, Walter, on peut décrocher un job et en ces temps de chômage, c'est toujours bon à prendre. Écoutez-vous.
Je voudrais quand même vous dire comment j'ai réglé les problèmes d'argent donc, que j'ai évoqués. Ce que j'avais fait, tout simplement, j'avais envoyé mon CV et une lettre de motivation à une société que bon, je ne peux pas vous citer, évidemment, mais qui, pour vous donner une idée, est assez active dans la distribution d'électricité et a un monopole dans le domaine. Et j'ai reçu une lettre de monsieur Bernard Remiche, le directeur régional des ressources humaines, qui me disait « Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre de candidature et nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que nous recevons un nombre important de lettres de candidature et que nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter. En vous souhaitant bonne chance dans votre recherche d'emploi, nous vous prions d'agréer, cher monsieur, l'assurance de nos sentiments distingués. » Je lui ai donc répondu « Cher monsieur Remiche, j'ai bien reçu votre lettre de refus de ma candidature et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux malheureusement pas l'accepter. Vous comprendrez que je reçois un nombre important de lettres de refus de candidature. Et que je ne peux malheureusement pas toutes les accepter. » Je commencerai donc à travailler chez vous la semaine prochaine. En vous souhaitant néanmoins bonne chance dans le refus de nombreux autres candidats, je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.
Bravo.
Lettre que j'ai réellement envoyée en 1996.
C'est génial.
En 96.
En 96, ouais. Tout à fait.
Unanimité autour de cette table, ouais. Walter. Il y a un film, Il était une fois qui est sorti sur nos écrans et qui, justement, croque un petit peu ce racisme anti-belge. Avec François-Xavier de Maison, c'est fait avec humour. Dites-nous, vous n'y êtes pas.
J'ai pas vu le film, mais je pense que je voulais parler de ça. Je pense que c'est un petit peu dépassé aujourd'hui. J'en joue évidemment, c'est assez marrant.
Bien sûr.
Mais parce que de toute façon, il faut être de mauvaise foi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de respect en France pour les artistes belges depuis une vingtaine d'années. Il y a des acteurs fabuleux comme Poulvorde ou François Damiens qui ont fait beaucoup. Et en fait, il y a plus de racisme anti-belge en France.
Évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que François-Xavier de Maison, qui interprète ce faux prince belge dans le film, vous partagez un petit peu le même parcours que lui. C'est-à-dire que lui a commencé dans la finance. Vous aussi, ouais. Comme consultant. Et puis, tout d'un coup, ça a été l'explosion ou la révélation. Était-ce de voir, justement, les énergumènes de ces métiers-là vous cerner, qui a fait que vous êtes passé d'un monde à l'autre ?
Non, mais j'avais déjà fait du théâtre. J'avais monté des spectacles, des revues quand j'étais étudiant. Mais il y avait un gros surmoi freudien qui me disait « Non, mais ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ça ne va pas. » Et puis, ça m'a rattrapé un petit peu plus tard. Je me suis dit « J'ai quand même essayé. » Et puis, voilà. Le fil en aiguille, j'arrivais au point virgule.
Alors, on vous a découvert il y a plusieurs mois maintenant en France. Et puis, sur Europe 1, vous officiez, je le disais, chez Michel Drucker le matin. Alors, vous êtes un peu le portraitiste au vitriol. C'est-à-dire que de Michel Galabru, au frère Bogdanov...
Vitriol à la Drucker. Vitriol à la Michel Drucker. Hein, ça reste...
ça reste dit tout. Qu'est-ce que cet exercice...
C'est du vitriol qui mouille.
Qu'est-ce que cet exercice du quotidien, de dessiner les contours d'un invité, vous apporte, Walter ?
Non, mais c'est bien parce qu'en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a des contraintes, évidemment. Il faut être un petit peu mordant pour répondre. On est dans une émission de Michel Drucker, donc voilà.
Pas trop mordant.
Moi, je termine toutes mes chroniques de la même manière. Je dis, nous sommes ravis de vous recevoir, surtout Michel, car tout le monde vous aime, surtout Michel Drucker, qui de toute façon aime tout le monde. Donc c'est un peu, je termine toutes mes chroniques comme ça.
Pardon.
Donc voilà, il y a beaucoup de. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça permet de jouer sur plusieurs. Plusieurs niveaux.
Et quand on vous considère comme le Belge de service, ce sur quoi vous jouez aussi, vous, dans votre spectacle, ça commence à, à vous embêter un petit peu et vous dites qu'il faut changer de braquet.
Non, j'aime bien que les gens fassent preuve de créativité. Si c'est pour me parler des frites, non. Mais par contre, j'adore les. Vous savez, on dit qu'il y a des blagues sur les Belges, on a aussi des blagues sur les Français. Hein. Par exemple, est-ce que vous savez pourquoi il y a des arbres le long des routes en France ?
Non.
Pour que l'armée allemande puisse marcher à l'ombre. Par exemple, ça fait amusant.
Salaud ! Quittez ce plateau tout de suite. Allez, encore une autre, puisqu'elle est sur le bout de la langue. Encore une autre ? Ah non ? Merci beaucoup. Au point virgule, Belge et méchant, du mercredi au samedi à 20h. Et on vous retrouve, c'est trois fois par semaine chez Michel Drucker ?
Deux à trois fois par semaine chez Michel Drucker à 10h30 dans Faites Entrer.
Depuis la blague, ça va être moins.
Avec beaucoup de plaisir.
Quand on aime, on ne compte pas.
Merci beaucoup, Walter. Vous venez d'entendre Jacques Pessis pour son spectacle Pierre Dac au Théâtre des Deux Ânes. Pierre Dac, le parti d'en rire, ça vous donnera envie de retrouver ses archives et de relire Pierre Dac surtout. Hélène Segarra, vous serez les 16, 17 et 18 mars à l'Alhambra. On vous souhaite beaucoup de succès et avec ce nouveau single aussi où vous chantez avec votre fils Le Monde à l'envers. Merci Hélène d'avoir été avec nous. Nicolas Briançon, dépêchez-vous parce que jusqu'au 31 mars seulement, il reprend Jacques et son maître, une pièce qu'il a créée il y a 15 ans. Vraiment d'une finesse et beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour. Version Milan Kundera avec son compagnon Yves Pignot. Merci Nicolas.
Merci.
Renaud Muselier, vous êtes à Paris parce qu'Assemblée nationale, mais ensuite vous retournez à Marseille et vous présidez le conseil de l'Institut du Monde Arabe. Merci de nous avoir fait découvrir ce nouveau musée. Pierre de Villeneau a poussé les portes avec nous. Myartinvest.com, c'est le site où vous devez aller si vous voulez acquérir un morceau d'œuvre d'art. Tom David Bastock était avec nous ce soir. Laurent Mignard, le 12 mars au Palace avec Ellington French Touch. Et Walter, que vous avez entendu à l'instant. Bravo l'artiste. Merci à tous. Merci à Julien, Agnès et puis Loïc de l'autre côté du poste et Laurent ici pour la technique. À très vite.
Et merci Wendy.
Merci à tous.
Merci, au revoir Wendy.